Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique en direct. C'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité. Chaque soir, 22h, 23h, on remet le son avec nos invités. Ce soir, un président, Jean-Louis Aubert, et son Excellence, Gisèle Pape. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
J'avais un président et un pape, c'était génial. Jean-Louis Aubert, en post-victoire de la musique,
vous avez tenu. Je remets mon
masque. Remettez-le, oui. Très bien, parfait. Il était noir, maintenant il est bleu, chirurgical.
Ouais, j'en mets deux. Alors, si tu m'appelles président encore une fois, j'en mets deux.
D'accord, bon, alors bon, allez, hop. Vous ressortez le double album Refuge en version augmentée avec des inédits et le concert Passage au Bataclan de 2019 parce que Aubert en live, c'est pas juste une illusion. À vos côtés, Gisèle Pape et son premier album Caillou après un EP titré Oiseau. Au programme, une pop onirique qui chante le rapport de soi à la nature et c'est particulièrement... J'allais dire émouvant, pas du tout, envoûtant. Marion ?
Elle a collaboré avec Jean-Louis Aubert sur son dernier album Refuge. L'ingénieur du son et productrice Bénédicte Schmitt va nous dévoiler quel genre d'homme il est en studio.
Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Wow. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite en live avec vous, Jean-Louis Aubert. Souvenez-vous, c'était le 29 janvier 2020 sur la scène du Grand Contrôle Paris 12. Vous veniez de sortir ce double album Refuge et vous étiez notre invité, bien sûr.
Ah oui. C'est vrai, mes amours.
On s'aime si fort ensemble,
on va gagner. On s'aime si fort ensemble, on peut flotter. Mais tu trembles, il me semble, je vais nager.
Jean-Louis Aubert en live, collection Côté Club au Grand Contrôle, quand on pouvait encore performer sur scène, public non masqué, avec ce titre bien sûr, extrait du double album Refuge, mais version piano-voix, on était en 2020, c'était super hein ?
Pas mal.
Vous êtes toujours aussi critique quand vous réécoutez ?
Ouais, parce que c'est des instants présents, c'est comme ouais. Un miroir, quoi, je sais pas. Pas d'opinion, non, des fois, j'ai jamais la même opinion, mais j'aime pas trop cet effet miroir. C'est pour ça qu'en studio, on essaye vraiment de se faire beau.
Jean-Louis Aubert, le retour avec la ressortie de Refuge, version augmentée, des inédits, puis le concert du Bataclan, on y reviendra. Je vous présente Gisèle Pape, vous vous connaissez,
oui,
Gisèle Pape?
On se connaît depuis 10 minutes.
Voilà, exactement. Gisèle Pape, qui a fait beaucoup de choses avant de se consacrer à la musique, on y reviendra, hein, sur ce parcours, le cinéma, le théâtre. Premier instrument, c'était l'orgue.
Oui,
c'est pas courant,
ça.
Pour un enfant de choisir
non.
L'orgue.
D'ailleurs, on était peu nombreux.
Tu peux imaginer?
Ouais, je sais pas ce qui est... je crois qu'il y avait un orgue, parce que j'ai demandé à mes parents pourquoi j'ai choisi cet instrument. Je crois qu'il y avait un orgue électronique chez une grande tante. Et je sais pas, il y avait déjà des boutons, je crois, des sons qui changeaient, ça avait dû me plaire. Et puis j'étais pas très sûre, et le professeur du conservatoire de Belfort, qui était titulaire de l'orgue de la cathédrale, du coup il m'avait fait une démo à la cathédrale. Donc je pense qu'il avait fait un truc de dingue avec
le grand jeu, quoi.
Ouais, et du coup j'avais trouvé ça complètement fou avec le son qui était complètement... c'était fascinant un peu la résonance du son et tout. Du coup j'ai fait cet instrument, ouais.
Vous avez joué dans la cathédrale de Belfort, jeune?
Bah, j'avais mes cours, à partir de... Enfin, je sais plus, quand j'étais au lycée, mes cours étaient... pas les premières années, parce que bon, au début quand on joue pas très bien, mais à la fin, ouais, mes cours étaient à la cathédrale.
Premier instrument, Jean-Louis Aubert, non, pas du tout l'orgue. C'est la guitare de votre père.
J'aurais bien aimé.
Ouais, c'est super. Hein. En plus, elle donne. Et puis, vous verrez tout à l'heure, il y a quelque chose qui revient dans la musique qu'elle joue aujourd'hui. Vous, c'était la guitare de votre père accrochée au mur de votre chambre.
Oui, elle était en mauvais état, mais.
D'accord, mais vous l'avez décrochée.
Oui, quand même. Ouais. Après un concert des Who en 68, non, 9,
ouais,
9, non 9.
À peu près, ouais.
Théâtre des Champs, ouais.
Ça veut dire qu'il était musicien?
Oui, mais en cachette, quoi, en catimini.
Il jouait que pour lui ?
Un peu, il écrivait des chansons. Il a joué, je pense qu'il a joué uniquement quand il était prisonnier pendant la guerre. Et où il faisait des spectacles, il connaissait des poèmes par cœur et tout ça.
Vous avez retrouvé certaines de ses chansons ?
C'est un peu traîné, quoi. C'est un peu ce genre-là, des chansons un peu... Un peu gay, triste,
un peu
comme
swing,
ça.
Un
ouais,
peu...
c'est ça. Maintenant, après, j'entendais chanter des choses pour toujours cette histoire des amis, des anciens du camp. Mais ce qui était marrant, c'est que ils avaient fait un spectacle où ils s'étaient même costumés en cousant, donc tout le monde s'y était mis. Et ce spectacle, dans ce camp qui devait être en Pologne en plein hiver pour le Nouvel An, a été pris, alors que c'était sûrement léger, d'apparence, a été pris comme un acte de résistance. Et il m'a dit après, j'ai lu après qu'ils étaient les chouchous du camp. Et je trouve que c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi.
Exactement,
sauf que mon camp, il est plus grand.
Exactement, mais vous aussi, vous avez fait acte de résistance, justement, en prenant cette guitare et en continuant la musique.
Ça m'a rappelé le Bataclan, j'ai beaucoup pensé à lui, au Bataclan. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de semi-léger dans ce cadre qui donne... ça donne de la force, même. Toutes les chansons changent de sens, elles prennent du poids. Et puis on a l'impression d'être courageux si on s'amuse, et c'est très très curieux. Et ça peut être le cas pendant le confinement aussi. Quand on faisait un peu de résistance là, au début, les concerts sur Internet, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui m'embrassent dans la rue en disant « Mais tu as rythmé nos journées. »
Il y en avait, ouais, vous étiez assez nombreux, mais vous, c'était très très régulier. Il y avait vous, il y avait Benjamin Biolay, je me souviens des concerts chaque jour qu'on regardait en effet.
Ouais, un partage, et c'est pour ça que je pense que la musique mourra jamais, quelles que soient les conditions, elle s'adapte à tout et... en particulier au malheur.
Vous étiez présente sur Internet, vous aussi, Gisèle Pape ?
Pendant le confinement. Alors moi, j'ai fait des tutos de bricolage, je dois dire.
Des tutos de bricolage pour bricoler quoi ?
Parce que en fait, je venais de déménager, j'avais pas de quoi faire la musique, j'ai essayé de finir mon album, justement, et en fait, le son, il était affreux, et mes voisins avaient beaucoup de boîtes d'œufs parce qu'ils avaient un lombric composteur. Et du coup, j'ai voulu isoler mon studio et je suis partie un peu dans des tutos un peu absurdes. Je sais pas, je crois que j'avais besoin de faire un truc un peu absurde et complètement décalé. Et voilà. Après, j'ai fait une reprise de la bricoleuse, enfin, de Brassens, mes versions féminines. Avec mes boîtes d'œufs et tout, qui en fait sont hyper visuelles et très graphiques.
Ça c'est très très beau, les boîtes d'œufs, même pour le son, c'est parfait. On va écouter tout de suite Jean-Louis Aubert, le nouveau single de ce refuge, Où me tourner. Elle a une histoire, cette chanson.
Je faisais du bricolage.
Non, pas ça, bien sûr. Et on va y croire.
Si, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que les premiers accords, enfin, ce qui arrive souvent, j'ai un espèce de home studio, et puis là, j'étais en train de brancher des fils. Donc, pour savoir si un instrument marche, eh ben, je fais un petit peu de musique. Et en fait, ça a fait, ce thème musical là, donc après, et puis pour voir si la voix marchait, j'ai fait quelque chose en yaourt, comme on dit,
et puis après
je me demandais ce que je voulais dire, et comme dans toutes les chansons un peu où je suis perdu, je sais pas si je parle d'un amour, d'un ami, et là j'ai l'impression que je parle aussi de l'inspiration, parce que quelquefois, alors c'est presque comme une espèce de dieu intérieur aussi, c'est-à-dire que on a disons une âme poétique, enfin j'aime pas trop ni le mot âme ni poétique, mais enfin je les ai dit quand même, c'est bien fait pour moi. Puis quelquefois vous êtes repris dans le monde matériel et puis tout d'un coup dit mais tu es où, enfin tu es où, c'est tout moi-même là qui me fait planer, je m'occupe plus de toi, et j'ai l'impression que quelquefois j'aime bien quand les chansons de séparation ou de nostalgie d'un pays évoque un pays ou quelque chose d'enfantin, de maternel, ou alors justement cette espèce d'intérieur inspiré qui rend la vie, qui change le regard, quoi. Tout à coup tout devient intéressant. Puis quand on est pris dans le monde matériel, dans ses soucis, ben c'est les mêmes que les vôtres, et tout ça, c'est en cours après. On sait plus quoi au bout d'un moment. Et voilà, et quelquefois, nous les musiciens, on se plaint, on a envie de retourner dans les bras de notre inspiration.
Tu m'as laissé seul dans la tempête.
Où me tourner, signé Jean-Louis Aubert. Peut-être un mot sur le début, sur les claviers, les quelques notes qu'on entend au début, Jean-Louis Aubert.
Les petits synthés, oui, ça bah pourrait ouais. rappeler les où. Hein.
Ouais, tout donc, à fait.
Je vous en ai parlé tout à l'heure des
non,
noms.
Non, non, pas du tout. Pas non.
Bah oui, c'est le groupe qui a tout déclenché chez moi. Les deux premiers mots anglais que j'ai appris. I'm free. Ça me faisait kiffer. Non, le premier concert que j'ai vu, c'était les Who au Théâtre des Champs-Élysées. J'ai trouvé que c'était fantastique. Bon, mais il n'y avait pas encore Won't Get Full Again avec ce fameux synthé que Pete Townshend avait sur sa péniche à Londres. Et je dois dire que c'est très curieux tout ça, parce que cette nuit, j'ai regardé en entier un concert des Who récent.
Récent?
Et donc, bon, c'est vraiment, voilà, c'est.
Et,
voilà,
et ça tient toujours?
Eh ben, c'est.
Comment vous regardez ça, ouais?
Ben alors, je les ai vus à Bercy, comme ça, j'ai trouvé ça extrêmement nostalgique. Il y avait derrière des on aurait dit. Alors, c'était sur le thème de Quadrophenia, qui est un bon album, enfin, qui parle du mouvement, enfin, des mods, quoi, avec ouais. leurs scooters et leurs phares. Et j'aimais beaucoup, mais bon, ça faisait très. Comme une maison de retraite, quoi, à Bercy, là, on était, les gens étaient assis boitillants avec des vestes en forme de drapeau anglais. Non, c'était, alors j'avais trouvé ça trop nostalgique, mais là, c'était à Hyde Park, et donc, avec ce public anglais. Et eux, ils ont changé d'attitude, ça devient assez musical, et puis je regardais, mais qui est ce batteur? Un jeune batteur. Et ben en fait c'est le fils de Ringo Starr.
C'est pas vrai.
Et c'est
qui a intégré
joue,
le
groupe. Ah ouais, il joue dément super. Et puis je regarde le deuxième guitariste là qui a le bon son là qui joue bien comme Pete Townshend. Ben c'est le fils de Pete Townshend. Et puis
le
bassiste qui était déjà à Bercy et qui me fascinait, il bouge pas, il a l'air de s'embêter, il sourit, il a les doigts qui bougent à toute vitesse et il s'appelle Paladino, et c'est un des plus grands bassistes du monde, quoi. Il peut faire du jazz et de tout ça. Et le gars, il rentre dans la musique des Who, comme. Et c'était pas mal, ce concert, même un petit peu progressif par moment. Enfin, on sent qu'il y a l'essence un peu de ce que Pete Townshend voulait faire. Vous avez vu le film aussi, Lambert et les managers, là. C'est fascinant aussi. Non, je suis un grand, grand fan des Who, peut-être. Peut-être à l'époque c'était plus que les Stones, on a souvent cru qu'on était. Moi j'étais inspiré par les Who, je trouvais ça plus violent, encore plus anglais peut-être.
Vous les avez rencontrés?
Oui, j'étais un peu.
Un peu ami?
Non, mais une fois je me souviens que j'étais assis, mais vraiment j'ai l'impression que c'était au restaurant, ouais, mais j'étais assis à côté de Pete Townshend. Et par contre j'ai fait un grand bœuf avec John Entwistle, le bassiste. Alors c'était pas mal parce qu'on était dans un tout petit studio et il a réglé l'ampli avec son avant-bras, c'est-à-dire tout à 10. C'était un ampli 300 watts quand même, donc on s'en est pris plein la gueule.
Alors, je peux imaginer.
Et sur l'album Un autre monde, c'est lui qui joue du cor et les vents, donc on entend dans l'album.
Dans l'album.
Parce que il jouait du cor comme dans Tommy. Et l'autre personne qui était sur un petit ampli 15 watts avec qui on buffait, c'était Jimmy Page.
Mais il y avait tout le monde dans ce studio là.
Ouais. Jimmy Page qui avait plus de dents devant et tout le monde disait Jimmy Page va beaucoup mieux, vous avez vu.
On va rester en live justement puisque ce
c'était un moment inoubliable.
C'est dingue.
Ouais. Eric Clapton n'a pas voulu venir.
Ah bah évidemment.
Il a dit non, I don't feel it, it's tonight. C'est un drôle d'endroit.
On va rester dans cette énergie du live avec ce double album donc qui ressort, des inédits, et puis ce concert du Bataclan, extrait.
On retourne à la campagne, d'accord? On va sur les pas de Rimbaud. Il avait 17 ans quand il a écrit ça. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés. Fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini
me montera dans l'âme et j'irai loin.
Jean-Louis Aubert, quel souvenir vous gardez de ces jours au Bataclan, le concert, pour que ce soit justement ces jours-là qui figurent sur cet album? Parce qu'il y avait d'autres concerts pendant cette tournée de Refuge. Il y a eu des Zéniths, il y a eu le concert d'Amiens, il y a eu le dernier concert à Amiens avant le confinement, où les gens gueulaient.
Mais surtout avant, ça a été une longue tournée des théâtres. Ça a commencé par au Théâtre de l'Œuvre.
Tout petit théâtre parisien, magnifique, une sorte de bonbonnière, ouais.
J'ai été voir Manu Payet, un copain, et justement, j'ai chanté une chanson qui s'appelle, qui est dans l'album, qui s'appelle Ne cherche pas refuge ailleurs, sois une île pour toi-même. Et je me suis retourné, Manu pleurait parce que lui, il vient de son île de la Réunion. Enfin, il avait les larmes aux yeux, on va dire, quand même. Mais j'ai eu trop envie de, après le Stade de France avec les Insus, de faire des petits théâtres, et je suis parti, j'entraînais toute mon équipe derrière moi. Et puis, les hologrammes sont arrivés.
Les hologrammes sont arrivés. Vous savez qui tournait avec les hologrammes? Gisèle Pape? C'était quand même incroyable, cette aventure.
Ouais.
C'était spectaculaire. Moi, j'étais au Bataclan. C'était quand même un sacré dispositif avec les hologrammes.
Dans les zéniths, c'est encore plus incroyable.
J'imagine.
Vous expliquez, Gisèle, comment ça se passait?
C'est-à-dire que, quand je suis tout seul sur scène, j'ai des loopers un peu partout et sous des percus du piano et puis les gens me demandaient toujours mais il y a des choses préenregistrées. Alors et tout d'un coup j'avais lu un bouquin de science-fiction, j'ai dit ça serait bien de jouer avec des avatars comme ça les gens j'ai réussi à mettre, enfin nous avons réussi et ça a été très compliqué d'ailleurs avec quelqu'un de Grenoble qui nous a aidé aussi à mettre au point des hologrammes sur scène, et quand j'appuie sur la pédale qui fait record, ça enregistre en même temps mon image, et après je m'en vais, et ça laisse mon image en train de jouer, comme ça les gens... quelquefois, quand il y a 5-6 instruments, il y a 5-6 Jean-Louis qui jouent, et puis qui jouent en boucle, comme ça qu'ils font toujours les mêmes gestes, et c'est super, et ça, en plus ça reste live et improvisé.
Tout à fait, ouais, c'est ça.
Et donc, c'est comme un mandala qu'on effacerait, un mandala en sable, quelque chose. Et des fois, je suis moi-même auditeur de ce que je viens de faire.
Et spectateur de vous-même en train de jouer à côté. Ouais, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue.
Ça vient un peu d'un truc de science-fiction. Ça fait 20 ans que j'y pense. J'ai appelé aux États-Unis, tout ça, mais en fait, comme dans un bouquin de Coelho, c'est en bas de chez moi que était le gars qui pouvait le faire.
Qui pouvait le faire.
Ouais, il y avait celui qui avait fait les hologrammes pour Mélenchon. J'ai dit, attends, ça y est, l'ai trouvé.
C'est le même.
Je l'ai trouvé.
Alors, en parlant justement des gens qui vous ont accompagné, Marion a joint quelqu'un au téléphone.
Et oui, moi je suis partie au cœur du réacteur de l'album Refuge avec Bénédicte Schmitt. Bénédicte qui affirme un bon instrument, un bon placement micro, un bon choix de préampli pour agrandir le terrain de jeu au mixage. Ça c'est sa formule préférée. Elle est ingénieure du son, productrice, réalisatrice au Labomatic Studio. Elle a participé à l'album Rock Éclair de Jean-Louis Aubert, au BO des films qu'il a signé pour Philippe Claudel, Philippe Godot, Philippe Garrel, que des Philippe.
Que des Philippe, c'est le concept. C'est vraiment
ça. Avec les Philippe.
Voilà, c'est ça. Et pour l'album Refuge, je lui ai demandé de quelle nature avait été leur collaboration.
C'était particulier pour cet album-là par rapport à la façon dont je travaille d'habitude avec Jean-Louis. Là, il est arrivé, il avait commencé les mix de l'album. Il avait des doutes, ça faisait longtemps qu'on parlait de cet album ensemble. C'était un travail d'accompagnement, mais je dirais aussi plus technique qu'artistique par rapport à d'autres collaborations qu'on a pu avoir. Un travail de finition. Il y a une grosse différence sur cet album, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments quand même qui proviennent de ces maquettes. Le côté la première prise. La première prise, elle est bonne, beaucoup donnée sur un moment et la réflexion, c'était pourquoi refaire quelque chose qui est bien. Et il y a certain nombre d'éléments qui ont été gardés, quoi.
Sur quoi il est le plus attentif, le plus pointilleux, Jean-Louis Aubert, quand il est en studio?
Je dirais sur tout. Non, vraiment sur chaque étape, il lâche rien, il s'investit énormément. Et c'est bien, enfin, il y a des bons et des mauvais, enfin, pas des mauvais côtés, c'est, disons qu'il a beaucoup de mal à lâcher prise.
Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez lui poser?
Comment va être le prochain album?
Merci Bénédicte Schmitt. Alors, il va être comment ce prochain album? Vous êtes déjà en train de l'écrire, Jean-Louis Aubert?
Non. Non, 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 non. Je suis en train de construire un nouveau studio.
Ah, d'accord.
Hein? Chez vous?
Oui. Bah oui, oui, parce que moi, tout est obsolète. Vous savez, vous avez remarqué comment les ordinateurs, ils vous mettent dedans, quoi. Plus rien marche avec plus. Enfin, ça fonctionnait bien, mais vraiment, là, je peux plus avancer, je peux plus mettre à jour les choses. Et donc, ça donne des envies. Et puis, là, quand j'ai été un peu bloqué cet été, je me suis intéressé à des nouveaux programmes. Puis j'ai découvert ce qu'on appelle des beatmakers. Comme je suis très vieux, je savais même pas que ça existait, quoi.
Je savais pas ce que c'est des beatmakers, ouais.
Non, moi aussi,
mais vous m'avez oui, alors, vous voyez, mais...
Ouais. Non, mais si je grossis pas le trait, vous allez rien comprendre.
Bon, c'est ça. Bénédicte, elle dit que vous avez un œil et des oreilles sur tout ce qui se passe en studio. Est-ce que c'est la façon douce de dire que vous êtes quand même très contre le fric quand vous rentrez en studio, Jean-Louis Aubert?
Non, non, mais c'est-à-dire que
en grossissant le trait,
c'est pas. J'ai pas mal échangé par exemple avec Gérard Manset. Bon bah c'est le même genre. C'est-à-dire que si par exemple le soir on se quitte sur quelque chose et puis mettons que Bénel est arrivé le matin une heure avant moi, et je rentre dans le studio, j'ai dit le son de la grosse caisse a changé.
Mon Dieu.
Le truc. Tiens, remets celui d'avant. Non, je préfère celui d'avant. Donc c'est un peu des trucs comme ça, ou alors l'inverse. Non, c'est pas mal. C'est-à-dire que, et surtout quand c'est des choses où je joue beaucoup d'instruments, je connais parfaitement chaque petit recoin, quoi, chaque résonance. Donc c'est un petit peu voilà.
Je suis on peut pas vous la faire, ouais.
Ah ben oui, c'est donc c'est voilà, c'est pas facile à maîtriser. Et ça, mais j'adore la collaboration, par contre. Et donc, j'ai eu des fois des producteurs qui me laissaient plus rentrer dans le studio. Non, mais il y a eu tous les genres. Ça fait longtemps que j'ai fait des disques. Et il y en a qui. Mais ça peut se finir quand même par une petite rebellitude, comme dirait notre ami Ségolène.
Un travail, elle disait, vous aviez déjà commencé un mix avec une autre équipe, c'est ça? Mais qu'est-ce qui fonctionnait
pas? Non, non, je trouve pas qu'on avait commencé un mix. En fait, c'était le temps pressait et j'ai pensé que, d'ailleurs, donc Bénédicte a travaillé en parallèle avec Dominique Blanc-Francard. Oui, donc on avait deux studios
voilà,
en route,
deux studios ensemble, ouais.
Comme il y avait deux albums en même temps, les deux albums ont été mixés ensemble. Et j'avais peur que, avec mes autres camarades du studio de La Frette, peut-être on n'arriverait pas à le finir dans l'été, l'album. Parce qu'il y avait énormément de titres à mixer. Et voilà, mais c'était très très bien aussi ce passage d'enregistrement au studio La Frette, qui est un studio à côté de Paris, avec une très vieille console Nive qui appartenait à Eddie Barclay. C'est un espèce de truc construit sur mesure. Bon, ben, comme les vieux bateaux, ça, c'est des fois il y a des fuites d'eau. Donc, mais... il y a un son inimitable, ouais, ah ouais. Ouais, ouais, avec des basses très très, des bas médiums très très solides. Donc il y a des groupes qui viennent du monde entier pour jouer sur cette console. Et voilà, c'est dans une cave, dans une maison où on dort. C'est vraiment dans une ambiance extraordinaire. Donc non, c'était très créatif à ce moment-là. Puis à un moment, il fallait remettre les choses en ordre. Et je pense que Bénédicte et Dominique ont fait ça très bien.
Jean-Louis Aubert, vous restez avec nous. Vous avez été président d'honneur des Victoires vendredi dernier sur France Inter et sur France 2. Vous êtes ce soir programmateur d'honneur et vous avez choisi Hervé, sacrée révélation masculine vendredi dernier. Vous avez aimé sa prestation?
Ah oui, j'ai beaucoup aimé Hervé. J'ai beaucoup aimé beaucoup de choses.
Ouais, cette soirée.
Déjà avant, j'avais repéré, j'aimais bien les artistes qui étaient sélectionnés.
Pommes, tout
ah
ça.
Ouais,
c'est super, vrai. Hein.
Oui, oui.
C'était vraiment une belle soirée.
Et il y a Ben.
Ben Mazuet aussi.
J'adore
ouais.
Ça.
C'était super.
Ouais. J'adore ça. Et plein d'autres. Alors, puis des plus connus, évidemment.
Benjamin. Oui, bien sûr.
Le petit lion.
Julien.
Julien Doré, ouais.
Ouais, enfin, il y a des trucs, et puis, ouais, ça m'a permis de. Enfin, je suis un peu descendu dans la musique, ça m'a fait faire un beau voyage. Parce que quelquefois, on entend que les morceaux qui passent à la radio, vous comprenez.
Oui, on comprend très bien. On les adore. Alors vous, c'était Un autre monde. Lui, il rêve d'un monde meilleur. C'est un titre bonus produit après la sortie de son premier album Hyper. C'est particulier car il a eu l'idée de demander à ses fans de chanter avec lui, de lui envoyer leurs enregistrements audio sur les réseaux sociaux. Et il les a gardés pour créer les chœurs de ce monde meilleur. Et bien sûr, France Inter à la radio.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Oh, oh, oh. Là, je te sens plus sûr de moi.
Regardez à la télévision, vous les avez écoutés sur France Inter, c'est Victor de la musique, Gisèle Pape.
Interro. Non, j'avoue, non. J'ai regardé les replays que j'avais envie de voir.
C'était lesquels?
On peut savoir. J'adore comme un prof. On peut savoir.
Oui, j'ai regardé Pomme et Insult.
Ouais. Ah bah c'était super, les deux prestations.
Et Suzanne,
c'était très surprenant. Hein.
Suzanne aussi,
c'était dingue dans
Isole,
la baignoire.
C'était
et tout
dingue.
Ça.
Ouais. Ouais,
c'était vraiment dingue. Gisèle Pape, premier album, il s'appelle Caillou, après un EP en 2019 qui s'appelait Oiseau. Vous avez à l'époque un peu plus de 30 ans, en 2019. Vous avez mis du temps ou vous avez pris votre temps? Deux choses très différentes.
Les deux, ouais, les deux. Pour Oiseau ou pour Caillou?
Non, pour tout. Pour tout, arriver
pour tout, ouais,
à signer un premier EP à 30 ans passés.
Bah, j'ai mis du temps parce que j'ai quand même passé déjà pas mal de temps à faire des études de cinéma.
Ouais.
Ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis allée à l'école Louis Lumière, j'ai découvert le cinéma expérimental qui m'a vraiment beaucoup plu. Et à la fin de Louis Lumière, je me suis dit que j'aimais pas trop le cinéma. de fiction en tout cas. Et je m'intéressais plus à tout ce qui était performance et je crois que j'avais besoin
donc
d'un
truc scène,
plus
déjà.
Direct. Ouais, ouais, en fait, je sais pas, j'avais besoin d'un contact en fait avec le public. Mais du coup, je suis allée plutôt vers la lumière, donc
j'ai commencé à lumière.
Ouais, ouais, j'avais commencé à éclairer des pièces et tout, et quand je faisais toujours de la musique à côté, au bout d'un moment, j'ai fait que de la régie parce que je voulais avoir l'esprit libre pour continuer
la musique.
Ouais, pour essayer des choses et tout. Et puis à un moment, je voulais vraiment faire la musique, mais j'étais assez lente, enfin, hein, puis assez timide, enfin, et du coup, j'ai arrêté pendant un an, j'ai fait que ça, et voilà, et après, il a fallu aussi que je sache quoi raconter, quoi dire, enfin, j'avais beaucoup d'influences différentes, en même temps, je voulais écrire en français. J'ai mis un peu de temps.
C'était si difficile que ça de penser écrire en français?
Ouais, parce que moi, j'écoutais rien en français. Toutes mes influences étaient anglo-saxonnes, donc écrire en français, ça m'était pas naturel dans un premier temps. Après, quand ça l'est devenu, je me suis dit, pourquoi écrire en anglais? Ça n'a pas de sens, mais voilà, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à écrire très mal en anglais. et puis c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver quelque chose qui me soit propre, quelque chose que j'avais vraiment l'impression que c'était ce que j'avais envie de faire et que c'était moi. Et quand à un moment, j'ai senti que c'était ça et voilà.
Vous aussi, vous avez commencé à écrire en anglais, vous qui écoutiez les Who? Jean-Louis Aubert?
Oui, sûrement, mais enfin, quand même très, très...
Très, très rapidement, le français est arrivé.
Oui, il arrivait un peu en diagonale comme ça, mais je pense que ça a été ma particularité. Et peut-être un handicap, quoi. Les maisons disaient, mais cette musique ne se fait qu'en anglais, monsieur.
Révisez votre
c'était
copie.
Drôle. Et après, quand on a commencé, après, ils disaient au groupe, non, il faut chanter en français, hein, comme téléphone, il faut faire... le troupeau, hein, c'est toujours pareil. Mais je crois que ma particularité, ça a été le français, quoi. Parce que l'hygiaphone, c'est comme un Chuck Berry, mais... En plus, le secret, c'était d'écrire comme on parle un peu aussi, pour avoir le rythme d'une... C'est vrai que...
Une véritable oralité.
Oui, mais les émotions parlées ont une mélodie, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un en colère, c'est quelqu'un en colère. Enfin, donc, les musiques correspondent à ça, enfin. Puis voilà, ça fait son chemin très très vite, comme ça.
Gisèle Pape, on va écouter Les Nageuses. C'est un extrait de ce premier album Caillou que vous avez écrit en pensant aux nageuses de l'Allemagne de l'Est des années 1970. Mais en quoi elles vous concernent? De quoi vous vous mêlez?
Parce que je trouve que c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Je trouve qu'il y a une violence qui a été faite à leur corps
pour des raisons diplomatiques,
ouais,
de soft power, ouais.
Au détriment de leur santé, de toute autre considération. Et je trouve que leur sujet, enfin même ce qu'elles ressentent elles, je trouvais très ambivalent en fait, un sentiment de victoire et en même temps un sentiment d'avoir trompé les gens. Et je trouve que le corps est aussi le réceptacle de beaucoup d'émotions et c'est un sujet qui me touche. Je trouve que c'était important d'en parler.
Et ça traverse tout l'album. Les Nageuses.
Au bleu du bassin, les couleurs se mêlent. L'espoir doré ignore le noir des secrets. On construit nos corps en machines si fières. Je nage, je gagne, je ne suis plus.
J'ai écouté ce titre et tout l'album d'ailleurs, Gisèle Pape, il y a deux questions qui me sont venues. D'abord, sur cette voix. C'est une voix très directe, très précise, sans aucun effet, pas de trémolo. Et je me suis dit, comment vous l'aviez travaillé pour que ça soit très direct comme ça? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous, justement, de ne pas faire d'effet?
Je ne l'ai pas fait consciemment, en fait. Je ne sais pas, ça ne me vient pas de faire des effets. Peut-être j'essaye juste de rendre la mélodie ou de. C'est vrai que je fais pas. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que si je fais des effets. Je m'attendais pas à cette question. Non, ça me vient pas naturellement de mettre des effets. Si j'ai essayé un peu plus tard, ça. Parce que je me suis dit, mince, faut peut-être quand même que je mette des effets.
Mais non, mais justement, c'est super haut comme ça, c'est très direct.
Je
c'est
sais
au moins,
pas,
c'est...
Je... peut-être parce que je me dis que. Je sais pas, peut-être j'essaye de faire. Parce qu'il y a tout le reste, il y a tous les instruments, il y a tous les arrangements, il y a le texte, ouais. Et je...
Ça donne une impression de vérité, je crois. Ouais, vraiment, ouais. C'est ça que tu n'as pas envie de maquiller la vérité, surtout dans cette chanson.
J'y arrive pas, ouais.
Et puis il y a autre chose qui m'a intéressé aussi, vraiment. Et alors, on va entendre un autre titre que j'ai adoré, qui ouvre l'album. Mais d'abord, juste une question par rapport à la formation. Tout à l'heure, on a parlé du fait que vous étiez formé à l'orgue, l'orgue liturgique. Et quand on est enfant et qu'on se forme avec un instrument, ça éduque l'oreille. Et l'orgue, en fait, c'est d'une sorte, on pourrait dire, de premier ordinateur analogique.
Ouais, pour moi, c'est comme ça que je définis souvent. Voilà. Je trouve que c'est un premier synthé. Ouais.
Et je me suis demandé si ce son que vous avez entendu et que vous avez produit enfant a encore des résonances aujourd'hui dans la façon que vous avez de composer vos morceaux.
Ouais, beaucoup. Je m'en suis rendu compte après mon premier EP, justement, en fait, en le réécoutant, d'un coup, avec le recul et tout, je me suis dit, oh, mais c'est fou l'influence de cet instrument. Et j'avais fait un concert, d'ailleurs, à Saint-Eustache, dans le cadre du Festival 36 heures, là, où je faisais, du coup, l'orgue, les synthés, je jouais sur l'orgue, et c'était hyper naturel, parce que j'avais un peu écrit avec ça dans l'oreille. Bah, je pense qu'il y a vraiment un truc déjà du son, et puis, après, sur les morceaux que j'aimais bien faire, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les fugues, par exemple.
C'est ça, ouais. Fugue, contrepoint.
C'est une écriture très horizontale, et c'est vrai que souvent, j'écris par ligne mélodique de synthé, pas tellement par harmonie, ou alors, peut y avoir une basse un peu tenue, et quelque chose qui se développe par-dessus. Ça, je pense, ça me vient vraiment beaucoup de l'orgue.
Oui, ce qu'elle veut dire. Hein.
Tout à fait.
Ouais, moi aussi. Alors, je voudrais qu'on écoute un morceau. C'est le titre qui ouvre l'album. Ça s'appelle Le Chant des Pistes. Mais ce Chant des Pistes, c'est aussi le titre d'une chanson de Rodolphe
oui,
Burger.
Oui, j'ai vu ça après. Ouais.
Et notre réalisateur a opéré un rapprochement des deux, un mix. Et c'est formidable.
Le chant des pistes s'éleva sur la plaine, juste après la pluie, dans l'odeur de la terre.
Voici le chant des étoiles.
L'âme surgisse, couleur des vallées.
Car nous sommes nous-mêmes les étoiles.
L'âme dans la nuque, des ravins sont ondulés. Je retiens l'écho dans le creux de ma main. Mon rayon de l'eau à l'abri du chemin. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier.
Car nous sommes des oiseaux faits de feu.
La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. Je voudrais l'orage, je voudrais le tonnerre. Je voudrais sentir dans les brins de la terre qu'il existait des champs parmi les pierres, dans la fraîcheur et le son du désert. Je voudrais qu'il reste dans l'écorce de mon arbre le souvenir et les rêves de ce temps quand les rochers redonnaient doucement.
Ça marchait bien au début.
Super bien, c'est génial.
Ouais, alors, entre les deux, qu'est-ce que vous avez avec ce chant des pistes? Ça vient d'où? Peut-être que vous pourriez expliquer à Jean-Louis Aubert, parce qu'en fait, vous avez la même référence, vous et Rodolphe Burger. Vous avez lu le même livre.
Oui, alors, à la base, c'est un livre de Bruce Chatwin qui s'appelle Le Chant des pistes. Et après, Enfin, en fait, c'est ce qu'on appelle le chant d'épices, c'est les itinéraires chantés. À la base, c'est les chants que chantaient les aborigènes dans le désert australien pour se repérer. Puis c'était aussi, ça dessinait une sorte de cartographie de leur mythe et de comment leur terre s'était créée. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'était... il y a plusieurs choses, mais j'aimais bien ce rapport très intime et très poétique. C'est pas poétique, mais en tout cas, pour moi, de l'extérieur, il y avait quelque chose dans ces tracés, dans le fait de chanter les pierres, de chanter les sentiers, les plaines. Je trouvais ça très poétique et très intime. Et voilà, par ailleurs, dans les problématiques actuelles de réchauffement climatique, etc. Donc, je trouvais que c'était aussi quelque chose à parler, mais j'aimais bien aussi en parler de ce point de vue-là, d'une certaine de comment garder aussi cette poésie de la nature et quelle place on veut, comment on veut être par rapport à elle, dans elle.
La nature, elle est présente dans le titre de l'album, hein, c'est Caillou, le EP c'était Oiseau. Vous, c'est un titre, un mot.
Ouais, j'aime bien. surtout ces deux mots, en fait, j'aime bien. Il y a beaucoup de voyelles, je trouve qu'ils sonnent bien.
Puis c'est pour les voyelles.
J'aime bien. Ouais, oiseau, il y a qu'une consonne, je trouve.
Ah ouais, vous regardez même.
Et caillou, caillou c'était Yannick, le pendant, et puis oiseau était un distrait aérien, c'était beaucoup un disque de rêverie, d'évasion, très onirique. Et caillou, il y a toujours ça, mais c'était quand même un retour à quelque chose de plus ancré, avec des problématiques plus actuelles et plus stériennes.
Vous qui connaissez la scène qui l'avait éclairée, puisque vous avez été régisseuse lumière, comment vous pensez le live? Parce que vous êtes seule, j'imagine, sur la scène.
Ouais, pour l'instant, je suis seule.
Enfin, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de scène. Ouais.
Mais je répète quand même, j'ai répété, j'étais en résidence. Et puis après, je serai en duo.
Il y aura des hologrammes? Vous avez vu, on peut être seule.
Je vais y penser. ce que j'essaie de retranscrire un peu l'esprit du disque, c'est-à-dire à la fois je suis toute seule et puis c'est vrai que il y a ce côté un petit peu laboratoire et en même temps un côté assez simple, on me voit faire les choses.
On vous voit produire la musique.
Ouais, alors j'ai des synthés, une guitare électrique et une pédale. Mais j'essaie de rendre un peu le côté très direct des chansons et puis en même temps de faire, j'aime bien quand je sens que les gens ils rentrent dans un truc et qu'ils commencent à rêver, à se laisser aller, à imaginer des choses et tout, comme j'essaie de faire quelque chose d'assez visuel, même dans la musique, dans les mots. J'aime bien quand il se passe ça, c'est ça que j'essaye de faire dans les concerts.
Dernière question, tout à l'heure, Jean-Louis Aubert nous parlait de son home studio, il est en train de changer, donc il suffit de faire les poubelles près de chez lui, comme ça on va récupérer plein de matériel.
Et des chaussures.
Vous parlez d'une pièce à musique, c'est ce que j'ai pu lire dans le livret. C'est quoi une pièce à musique?
C'est une petite pièce dédiée à ça.
Ouais, c'est vous. C'est
une PAM, on appelle ça une PAM.
On est chambre au 7e sans ascenseur, je veux dire. Non, rien, sans rien. C'est une petite pièce que j'ai. Du coup, c'est vrai que c'est une petite bulle quoi, que je me suis créée.
Il y a quoi dedans?
Il y a mes instruments, il y a les livres que j'aime bien, il y a des images.
Des coquilles d'œufs au mur.
Que j'aime bien. Alors là, non, du coup, là, c'était dans l'autre. Donc là, il n'y a pas. Mais il y a les choses qui m'inspirent et une petite boule à facettes que j'aime bien aussi.
Boule à facettes. D'accord, je vois la dimension lumière. On va se quitter tous les quatre tout de suite avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Louis Aubert. Si je vous dis 2003, sur la route, vous pensez à qui?
Rafi.
Exactement, Raphaël. Ce soir, il prend le train du soir avec Pomme, qui vient d'être sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique. Vraiment, c'est une grande famille. Ouais. C'est un extrait du prochain album de Raphaël, Haute Fidélité, qu'il viendra chanter sur France Inter dans un concert triple affiche le 11 mars prochain avec Feu Chatterton et Arnaud Robotini. Tout de suite, le train du soir n'attend pas dans Côté Club.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, du vent dans les cheveux et le bruit des essieux, nos souvenirs qui sont en feu. Le train du soir file vers toi, paradis, la compagnie, les soldats du corail qui boivent, qui chantent et qui déraillent, qui déraillent, qui déraillent, qui déraillent. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas.
Le train du soir file vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Le dernier ferry. Cette nuit,
je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Mais je ne pleurerai pas.
Eh bien voilà, c'est fini, comme vous pourriez le dire, Jean-Louis Aubert, c'est vraiment l'occasion de le faire, comme toujours. Côté club, ferme ses portes. Merci Jean-Louis Aubert, merci à vous.
C'était chouette d'être avec vous, merci.
Je rappelle, le double album Refuge ressort en version augmentée avec des inédits et puis le concert du Bataclan. Gisèle Pape, merci.
Merci à vous.
Vous venez de semer Caillou, très beau premier album. Marion ? Eh bien, rien du tout, rien de plus. Demain, ce sera qui, Marion ?
Demain, on fait un zoom sur Chronique Terrestre, volume numéro 1. C'est le nouvel EP de Voyou, un disque instrumental où la trompette est au centre du jeu.
Côté club, c'est toute une équipe. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Julien Dumont. Marie Mougin nous a rejoint cette semaine avec Marion Guilbault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer pour la programmation. La collaboration de Margot Terre, Muriel Pérez, toujours fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct, quand vous voulez, si vous êtes en podcast, avec Rimka et Tessa. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain.